talmudique. C'est Gita, l'aînée de mes sœurs, de 10 ans plus âgée que moi, qui fut chargée de m'accompagner, ce dont elle était ravie et qui la reposait de son quotidien de célibataire au service de notre mère. Nous avons pris le train et passé la nuit à l'hôtel. Au petit matin, elle m'a accompagné au port pour prendre le Ville d'Oran, le paquebot qui faisait la navette entre Oran et Marseille. J'ai passé une bonne partie des 36 heures de la traversée à lire les mémoires d'Adrien, dont j'avais acheté un exemplaire en poche. Je ne connaissais pas Marguerite Yourcenar, mais j'en suis devenu un inconditionnel. Le lendemain matin, nous sommes arrivés à Marseille. Je suis descendu, j'ai fait quelques pas, j'ai posé mes valises et j'ai fait quelque chose qui m'a paru immédiatement ridicule, mais dont je mourais d'envie. Je me suis agenouillé, j'ai embrassé le sol et j'ai dit à haute voix, sur le mode des premiers vers du Virgile des Géorgiques, « Salve magna parens frugum o galliatellus ». Je n'ai pas pleuré, mais il s'en est fallu de peu et je ne pouvais que me réjouir d'avoir trouvé ce moyen de saluer la France dont je foulais le sol pour la première fois. La France qui a toujours été pour moi une promesse, la France qui nous avait ramenés dans son sein, la France qui nous parlait à longueur de lecture et de dictée, de feuilles mortes, de saisons, de cabanes sous la neige, de givres et de frimas, de glaciers, de lacs, de ruisseaux, de cathédrales, toutes choses étrangères, notre environnement, et que nous devions nous efforcer d'imaginer. Mais plus encore et surtout la France de Montaigne, de Pascal, de Racine, de Molière, de Chateaubriand, d'Hugo, de Lamartine, de Musset, de Vigny, de Baudelaire, de Rimbaud, tout autant que celle de Ronsard, d'Agrippa d'Aubigny, de Villon ou de la chanson de Roland. Et que dire encore de Balzac, de Flaubert et de Stendhal, de Michelet et de Renan, de Mauriac et de Gide, de Sartre et par-dessus tout de Camus qui avait réussi à greffer sur elle le ciel et le soleil de notre Algérie. Aldo Nauri, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation commencée la semaine dernière. Je viens de lire quelques lignes de votre dernier livre, Des bouts d'existence, paru aux éditions Odile Jacob. Quelques lignes qui disent toute votre première passion pour la France, une passion littéraire qui m'invite à vous poser deux questions. Qu'est-il aujourd'hui de cette passion pour la France? Est-elle toujours et encore littéraire, seulement littéraire? Et Camus, ah Camus, quelle place a-t-il tenu et tient-il encore dans votre panthéon littéraire?
Camus tient la première place, de très loin. Il est indéboulonnable. Et je regrette infiniment qu'il soit si peu pris en considération. Parce que vraiment, il avait la stature du prophète, au sens où précisément il avait dit dans son discours du Nobel, il est important que nous ne laissions pas le monde se défaire. Or, nous assistons justement à quelque chose qui est que, enfin pour moi en tout cas, c'est comme ça que je perçois, ce monde se défait sans que nous y puissions rien. Et les discours les plus raisonnables ne sont pas entendus. On est aujourd'hui avec la communication, l'inflation de l'information, les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai l'impression que tout part dans tous les sens. À telle enseigne que, un peu comme un ermite, peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai écrit ces souvenirs. Je me rétracte dans la vie que j'ai passée, qui est pleine comme un œuf, où j'ai exploré quantité de choses. La littérature reste pour moi une chose extrêmement importante et je m'en nourris, je reste toujours un boulimique de lecture. Et pour ce qui en est de la France, je dis toujours que je considère que je suis un migrant. Et de ce côté-là, justement, les problèmes de migration me font dire que le migrant que je suis, et j'en fais la démonstration, c'est parfaitement intégré. C'est-à-dire que je suis un parfait migrant intégré français, sauf que je me sens pas français en France, mais je me sens terriblement français dès que je suis à l'étranger. Et je dis aussi que c'est une caractéristique personnelle qui n'intéresse pas grand monde peut-être, mais je dis je suis un atopique, c'est-à-dire je n'ai nulle part où me dire chez moi. Je ne suis nulle part chez moi. Je n'ai pas de chez moi. Ça ne veut pas dire du tout que je suis un citoyen du monde. Pas du tout. Je regrette infiniment de ne pas avoir un lieu dans lequel je peux me dire « Bon, ben, ça y est, j'y suis arrivé. » Pas du tout. Donc, je reste comme ça, en suspens. Et ce migrant qui s'est parfaitement intégré et qui a apporté, en quelque sorte, à son pays d'accueil le plus qu'il a pu faire, dans un processus que j'ai nommé « revanche », parce que j'ai pris en quelque sorte ma place dans ce tissu qui m'était tissu social, et j'ai apporté ce que j'ai pu pour faire progresser notre société et pouvoir, avec les progrès que j'ai apportés, prendre ma revanche sur le bafouement de la dignité qui a été la nôtre à notre arrivée en Algérie, et par les Juifs précisément, algériens, mais ça c'est une longue histoire, et je la raconte. Et justement, j'ai pris cette revanche, mais ce n'est pas une vengeance. Et je fais la différence entre la revanche qui est inscrite dans le processus de vie et qui fait du gagnant-gagnant, et la vengeance qui est dans un processus de mort et qui est à la fois mortifère et suicidaire, et qui est stérilisante aussi. Donc, je dis que le migrant que je suis, qui a donc pris sa revanche, n'est toujours pas assimilé. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que, à mes bientôt 82 ans, avec ce que j'ai dans la tête, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai produit, je reste toujours avec cette langue maternelle qui me travaille très fort, qui me fait penser très fort, qui me fait rêver très fort. J'ai fait une psychanalyse dans laquelle il m'arrivait d'avoir des séances entièrement dans cette langue, et le type derrière n'entendait rien. Bon, quand j'ai fini mon analyse selon les critères de l'école lacanienne dans laquelle j'étais, eh bien, lui ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait pas entendre simplement parce que son ouïe n'était pas fabriquée pour avoir les phonèmes que j'avais soulevés. Mais cependant, ça s'est bien passé, tout cela. Bon, je ne suis pas assimilé. Mes enfants sont assimilés. Ils le sont, à mon sens, à 95%. Mes petits-enfants le sont totalement. D'accord ? Donc l'assimilation, c'est quelque chose qui est extrêmement lent.
Vous dites que vous êtes atopique, mais est-ce que dans le livre, l'écriture, vous ne trouvez pas votre lieu ?
Non. Parce que j'écris le français. J'écris un français, et entre, par exemple, mon premier livre en 82 et le dernier que je viens d'écrire, je constate jusqu'à quel point mon stock lexical s'est appauvri de façon considérable, comme si j'avais une façon de faire qui tentait de rejoindre le stock lexical modeste qui était celui de ma langue maternelle, et comme si je tentais d'exprimer avec un stock lexical aussi peu fourni le maximum de choses qui privilégient non pas du tout les sons mais l'émotion par l'agencement des mots et la construction de la phrase.
Alors retournons à la phrase « Au soleil de l'Algérie » à Camus. « Camus et le soleil d'Algérie me donnent l'envie de retourner encore un peu de l'autre côté de la Méditerranée. » Et en particulier ce roman « L'étranger » écrit au passé composé, qui nous interroge de façon profonde sur les temps du verbe dans un récit et dans une langue. Une question qui vous est très chère, Aldo Nauri, et que vous abordez dans votre livre par un souvenir essentiel qui donne son nom à un chapitre de votre livre, la rue d'Isly, une rue d'Orléansville, cette ville de votre enfance en Algérie. Parlez-nous de la rue d'Isly, Aldo Nauri.
Ce chapitre, je l'ai écrit, je dois dire, avec une certaine allégresse. Parce que j'ai littéralement revécu ce qu'il en était de la rue d'Isly, et je pensais qu'il n'y avait qu'à Orléansville que on faisait la rue d'Isly. Ça veut dire qu'on allait d'un bout à l'autre de la rue, aller-retour, 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 et quantité d'échanges se produisaient, et tout. Et ce qui est extraordinaire dans ce que j'ai essayé de rendre, c'est que chacun était visible par les autres et regardait les autres. Et il y avait comme ça constamment une sorte de surveillance des uns des autres, et avec une manière de faire attention à ne pas... On était endimanché le jour, vous voyez, on se faisait beau, on se lavait pour aller faire la rue d'Isly, on mettait les plus beaux vêtements, etc., etc. Comme si véritablement on essayait d'offrir au regard de l'autre quelque chose qui pût le satisfaire, mais on était satisfait aussi par le regard de l'autre. Et ça, en essayant de décrire tous ces éléments-là, j'ai voulu justement reprendre en main ce qu'il en est du regard, et du regard qui n'est pas rien du tout, je veux dire, qui est quelque chose d'extrêmement important, et tellement important que justement, il nous différenciait dans cette déambulation dans la rue d'Isly des Arabes qui, eux, avaient un code du regard extrêmement important, dans la mesure où un homme ne pouvait pas rentrer dans une cour sans demander passage, et toutes les femmes se retiraient parce qu'il ne fallait pas qu'elles soient vues par un autre homme que leur mari. Et nous avons là quelque chose qui met en place l'importance du regard. Et l'importance du regard Nous, juifs, nous en savons quelque chose, puisque de toutes les façons, le matin, dans la prière du matin, on dit « Préserve-moi du mauvais œil », n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que ce mauvais œil qui a envahi toute la Méditerranée ? J'ai d'ailleurs même, je me suis un peu risqué à dire que probablement j'écrirai un livre sur le mauvais œil, tellement il y a de choses à dire. Mais ce mauvais œil en question et cette histoire de regard m'a amené à m'interroger sur le fait que précisément, en tout cas dans l'arabe dialectal, vous voyez, il y a dans l'arabe comme dans l'hébreu, il n'y a que le passé et le futur, l'accompli et l'inaccompli. Il n'y a pas de présent. Le présent s'exprime par la position. L'arabe dialectal, lui, a trouvé une manière de dire le présent. Et pour le dire, il va utiliser un verbe qui n'a rien à voir avec le, par exemple, dans le verbe être, au passé c'est kana, kn, vous voyez, yakun, ykn pour le futur. Et là, pour dire le présent, on dit rani, rn, il n'y a plus rien du kn, il n'y a plus le même radical. Eh bien, personne, si vous demandez à un arabe de vous construire le verbe être au présent, il vous dira rani, rak, rana, rakum, etc. Bon. Et vous dites, répète, il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, ben, j'ai dit, je suis tué, il est. Je dis, non, ben, je vais te le répéter, je répète. Alors, et qu'est-ce que j'ai dit? Il m'a dit, tu as dit, je suis. Non. J'ai dit, il m'a vu, il t'a vu, il l'a vu, etc. Autrement dit, nous sommes aliénés dans le regard de l'autre. Et c'est ça qui paraît dans cette sorte de déambulation que j'ai décrite sur plusieurs pages, en montrant les personnages les uns après les autres dans cette rue d'Isly, où véritablement la société était là en train de se regarder, parce que justement ce principe d'aliénation met aussi en place le pouvoir de l'autre sur soi comme le pouvoir de soi sur l'autre, et dans ces échanges-là, quelque chose qui transite sans besoin de mots. C'est bon, alors il y a toutes sortes de, il y a les effets trompeurs et tout ce qu'on veut, mais c'est une galerie de portraits. Et quand par exemple mon livre s'appelle Des bouts d'existence, ça n'est pas que mon existence, il y a l'existence de quantité de personnages que je rencontre et que je décris.
Oui, alors cette rue et vous parlez de passage pour les Arabes pour qui on fait place, mais en fait, ce que vous décriviez dans cette rue d'Isly, c'est une coutume italienne de la passeggiata. Cette habitude est restée très importante.
Tout à fait, mais
dans les régions, voilà, du sud de l'Italie.
Tout la Méditerranée,
Sicile,
le Maï, en France.
Voilà, en oui. Sardaigne, à l'origine, le but était de présenter au village oui. les jeunes hommes et les jeunes filles à marier. Oui. Aujourd'hui encore, on vient faire la passeggiata pour se montrer, oui. parler de soi. Oui. Alors on se fait beau. Et l'on cire ses chaussures.
Oui.
Voilà. Mais être, c'est être vu, vous dites. Ce qui vous a conduit à une réflexion sur la langue arabe et hébraïque et sur l'absence ou présence dans le verbe être du présent de l'indicatif. Et quand j'ai lu ce passage dans votre livre, je me suis dit, en hébreu biblique, il y a une expression qui dit « ro'ani ». Ça veut dire « on me voit »,« ro'ani ». Et « ra'uni », »,« il me voit ». C'est de l'hébreu. Et je me suis demandé si vous vous étiez rendu compte que Raouni est l'anagramme de Naouri.
Non, jamais. Ah non, j'avais jamais fait ça. Non, j'ai simplement récemment écrit à mes enfants pour Hanouka, leur souhaiter bonne Hanouka, de leur dire, mais les Naouri, c'est une tribu du 11e siècle dans le centre de l'Algérie, et je pense qu'ils ont été appelés ainsi parce qu'ils allumaient Hanouka, et que Naouri, ça veut dire l'éclairant.
Encore quelque chose en rapport avec la lumière et la vue. Voilà. Mais bon, j'ai été surpris, je me suis dit, ça, vous l'aviez vu. En tout cas, être, c'est être vu. Et je pense que là, c'est véritablement un passage très important. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, je vais regarder cette rue, parce que vous la décrivez avec une telle précision qu'on y est. Et j'ai eu la chance de trouver sur Internet des cartes postales qui montrent cette rue d'Isly en pente, et on voit les cafés de l'époque que vous décrivez.
Voilà,
donc c'est un moment important.
Тиха и пустыня внемлет Богу, звезда с звездою говорит, всю ночь мне сладкий голос брат. любовь поет, я б желала навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы. Ночь тиха, тиха, и звезда звездою говорит, кремнистый путь блестит. Всю ночь не сладкий голос.
On est en train d'entendre Laurent Naouri, votre fils, dans un morceau de Prokofiev que vous allez nous expliquer un peu plus. Mais j'aurais pu aussi lire un passage d'un des livres de votre fille, Agnès de Sartre, ou parler de votre autre fille, Elsa, et de son travail de metteur en scène, non pour parler de votre famille, mais pour demander au pédiatre que vous êtes, et qui n'a cessé d'écrire et de pratiquer la pédiatrie, pour permettre aux parents de donner à leur enfant les meilleures conditions possibles de développement, comment cela s'est passé avec vos propres enfants? Quelle place avec eux ont eu les contes, les histoires, la pluralité des langues, la question de la traduction que nous avons évoquée la semaine dernière et encore aujourd'hui, Aldo Naouri?
Je l'explique à l'intérieur de mon ouvrage, je l'explique par l'évocation d'une personne centrale dans notre famille, c'est la mère de ces enfants-là. Et c'était une femme tellement extraordinaire que ses enfants étaient fascinés par elle. Et cette fascination ne pouvait qu'être encore plus grande dans la mesure où moi-même j'étais fasciné par elle. Et quand nous étions le soir à table, nous prenions toujours le repas ensemble, je me posais la question de cette fascination est si grande que je me demande si j'existe. Et donc, comme je n'ai pas eu l'expérience de ce que c'est qu'un père au-dessus de moi, j'ai eu ma mère et mes frères, mais ce père qui était très présent dans le récit de ma mère ne l'était pas physiquement. Je me demandais comment occuper cette place. Et donc, au bout de cette table, je me suis dit, bon, ben, je vais toujours raconter. Je vais raconter, c'est-à-dire, je vais mettre mes pas dans l'identification à ma mère qui était une conteuse, et puis je vais voir ce que ça va faire. Et j'ai pris ma place de père comme étant un conteur. Et voilà. Et c'est, je pense que cette manière de faire a peut-être, m'a peut-être donné justement cette place face à la mère de mes enfants qui avait une stature extraordinaire et qui, et dont je considère que ce qu'ils sont, c'est le résultat de ce qu'elle en a fait elle, parce que c'était une remarquable éducatrice et que elle avait infiniment de talent. Et quand on me dit, en protestant, mais non, mais vous y avez bien été quelque chose, je dis, oui, j'y étais pour quelque chose parce qu'elle m'a permis de, étant entendu que il n'existe de père pour des enfants que dans la mesure où la mère le désigne comme tel, c'est-à-dire qu'elle dit jusqu'à quel point cet homme compte pour elle. Et ça permet aux enfants, si vous voulez, de recevoir le mélange et de oui satisfaisant qu'ils originent toujours dans le corps de la mère, puisque depuis la conception, la mère a toujours dit oui à toutes leurs demandes, et des non que la mère peut éventuellement dire dans son éducation et qu'il considère comme n'étant pas de la mère. Les noms, c'est du « pas maman ». C'est du « pas maman », mais si c'est du « pas maman », d'où ça vient? Ben, ça vient de « pas, pas ». Voilà. Mmh. Et c'est cette dialectique se fabrique sur ce mode-là. Bon, à mon sens aussi, et je dis souvent, à bien des égards, et ô combien j'insiste sur le fait que chacun de nous n'est ni plus ni moins que le résultat d'une injonction de sa mère. Et qu'à cet égard, ces trois enfants brillantissimes, eh bien, ont tous accompli un vœu certainement que leur mère a eu pour eux, et avec lequel j'étais absolument d'accord, parce que de toutes les façons, ça a marché très bien. Je ne regrette pas qu'un de mes enfants n'ait pas été médecin, vous voyez, au jeu de mots. Et en définitive, je retrouve quantité de choses qui sont héritées de mon histoire autant que de celle de leur mère.
Alors, dans l'hébreu dit Av pour le père,
oui.
Ça écrit les lettres Aleph Bet, qui veut dire l'alphabet.
Oui.
Et la mère se dit M, Aleph, oui. M, Aleph Mem, qui dit le si, le conditionnel. Comment vous voyez cette relation entre l'alphabet et le conditionnel? si on se souvient que en hébreu, l'enfant, Yeled, je vais faire un petit jeu de gematria, de valeur numérique. Yeled, c'est 44. Le père, c'est 3. La mère, c'est 41. C'est exactement la somme, le père et la mère. Et donc, vous avez
voilà
en fait...
Voilà encore un de vos grands enseignements. Merci.
Mais voilà, c'est comment, c'est-à-dire, vous venez de l'expliquer, comment vous avez aidé non seulement les enfants dans votre travail de pédiatrie, mais aussi les parents à faire des enfants de qualité.
Mais bien, mais c'était là, c'est, si vous voulez, c'est la demande parentale qui a émergé au moment où je me suis installé. Je veux dire que jusque-là, on avait la demande parentale, c'était aidez-nous à faire en sorte que nos enfants ne meurent pas ou qu'ils ne soient pas malades. C'était ça qu'on demandait aux médecins et aux pédiatres. Et puis la médecine a fait tellement de progrès que la demande a changé, c'est-à-dire aidez-nous à faire de nos enfants des individus de qualité. Or, l'enseignement que j'ai reçu de la pédiatrie ne répondait pas à cette demande-là. Si bien que je suis allé me former, j'ai mis 10 ans à être pédiatre, j'ai mis 10 années encore à devenir le pédiatre que j'ai été ensuite. C'est-à-dire que je me suis formé pour pouvoir répondre sur ce mode-là. Et en insistant précisément sur la façon dont les relations interparentales interviennent pour que l'enfant devienne de qualité. Mais tout mon discours est tombé dans ce moment où dans notre société, quelque chose s'est produit de la déconstruction, de la la dérive, je dirais, qui a été où on a hissé comme idéologie dominante et raisonnable ce que j'appelle, et que je dénonce d'ailleurs dans mon ouvrage, comme ni plus ni moins que des retours violents de refoulés chez certaines personnes intelligentes qui en ont fait une véritable idéologie. Si bien que, quand par exemple j'ai écrit d'autres, pas celui-là, mais tous les autres livres, toutes les fois que j'ai avancé quelque chose, je l'ai avancé de manière scientifique, c'est-à-dire vérifiable à tous égards, etc., etc. Eh bien, tout cela a été rabattu sur de l'idéologie. On a dit, ben, Naouri ne pense pas comme nous. Alors que j'essayais de montrer ce qu'il en était. Bon, mais j'ai convaincu les convaincus. Ça a aidé, si vous voulez, à résister à la défaite.
Alors, dans un livre de Philippe Sands, intitulé « Retour à Lemberg », un livre incontournable, dont nous espérons parler prochainement dans Talmudic, votre nom ainsi que celui de votre épouse dont vous venez de parler est cité, comme sont cités de manière plus générale les familles Naouri et de Sartre. Et Jeanne, votre épouse, c'est la question que je me pose, était-elle de Lemberg ?
Non, Jeanne n'était pas de Lemberg. Jeanne était de Kishinev. Enfin, non, elle est née à Paris de parents venus de Kishinev. Et ils sont venus, ils avaient 19 et 20 ans, ils sont venus pour vivre leur communisme, c'est-à-dire passant par Paris pour aller en URSS. Mais ils sont restés à Paris. Et ils sont donc, le père de Jeanne a été déporté alors qu'elle avait 4 ans. Elle a été une enfant cachée pendant la guerre. Moi, en la rencontrant, je rencontre ce monde ashkénaze et de la même manière qu'elle rencontre le monde séfarade qu'elle ignorait totalement. Et en définitive, si vous voulez, tout était fait pour que ça se casse la gueule. Entre séfarade et ashkénaze, il y a tellement de différences tellement considérables. Mais ça, je vous l'expliquerai en vous parlant éventuellement des systèmes familiaux. Les séfarades, ce sont des Arabes juifs, vous voyez. Les Ashkénazes, ce sont des Européens juifs. Mais les Européens appartiennent à ce qu'on appelle le système esquimau. Et les Arabes appartiennent au système soudanais. Et c'est vraiment des étrangers radicaux.
C'est une question que j'allais vous poser, plus personnelle. Vous dédiez votre livre à Jeanne, donc votre épouse, In Memoriam, sa culture ashkénaze, c'est-à-dire de juifs d'origine d'Europe de l'Est, maintenant je sais qu'elle est d'origine ukrainienne, a introduit dans votre histoire personnelle et commune, dans celle de vos enfants, une autre dimension culturelle que celle que vous avez évoquée dans vos souvenirs d'enfance, d'adolescence et d'étudiants en médecine. Comment aujourd'hui portez-vous un regard sur cette rencontre culturelle entre l'Orient et l'Occident, en quelque sorte, même si l'Algérie dont vous parlez était déjà très occidentalisée, et comment ce regard a travaillé votre écriture et modifié, ou pas d'ailleurs, la question de la mémoire et des souvenirs, Aldo Naouri?
C'est une énorme question que vous posez, mais je commencerai par un correctif. Jeanne n'était pas ukrainienne, elle était bessarabienne, c'est important. Et de ce côté-là, si vous voulez, Ça passe par la langue, encore une fois, si vous voulez. Quand j'écrivais mes ouvrages, je donnais à lire à Jeanne, c'était ma première lectrice. Et je n'ai jamais autant détesté que dans ces moments-là. Parce qu'elle revenait et elle me disait, cette virgule ne sert à rien, là il y a trois adjectifs, il y en a deux dans, qu'il faut supprimer, et même le troisième tu pourrais le supprimer, cet adverbe ne sert à rien, etc. Au fil du temps, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, je n'écrivais pas du français. J'écrivais de l'arabe encadré par du latin. Pourquoi ? L'arabe, c'est redondant. C'est quelque chose qui véritablement insiste, et en particulier sur l'émotion. Et le latin met de la raison, empêche le débordement. Quand j'ai découvert cela, je me suis mis enfin à écrire en français. Mais la chose étrange, c'est que le premier livre que j'ai écrit en français en 2006 s'appelait Adultère. Vous voyez, comme si véritablement j'avais trompé mes propres racines. Bon, on est là dans quelque chose de cet ordre-là, qui fait que, je dirais que, quand tout à l'heure j'ai dit que mes enfants étaient assimilés à 95%, je dirais, ils sont français avec des gènes qui ont trempé dans le borch ashkénaz et d'autres qui ont goûté le couscous. Et ils se débrouillent très bien avec ça. Ils sont tout à fait à l'aise, aussi bien d'un côté que de l'autre, vous voyez. Et c'est bien, ça finit par faire un mélange qui à mon sens, leur assure à la fois ce talent et cette finesse à percevoir les choses les plus intimes qu'il y a dans le travail qu'ils produisent. Je veux dire que tout à l'heure nous avons entendu Laurent, je trouve que son grain de voix est un grain qui véritablement est caressant. Il y a quelque chose d'oriental là-dedans, je trouve. Bon, mais en même temps, si vous voulez, cet excellent russe qu'il prononce, c'est toute sa généalogie maternelle. Et puis c'est la même chose du côté de l'écriture d'Agnès, c'est la même chose du côté des mises en... Il y a une très grande sensibilité. Ça a donné, si vous voulez, un accroissement de la sensibilité et surtout de la sensibilité aux autres.
Et par rapport à ces structures parentales esquimaux et dont vous avez parlé, comment ça se conjugue?
Ce qui se passe, c'est la manière de penser la famille. Dans le système soudanais, c'est le système qui, dans lequel, si vous voulez, il y a une prévalence du masculin. Une prévalence du masculin, une importance du père, etc. etc. Le système soudanais n'intéresse pas seulement la société arabe. Je vous signale que la Chine, le Japon, tous les peuples asiatiques sont tous dans un système soudanais. Le système esquimo, c'est les sociétés occidentales. Donc, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas prévalence du patriarcat, du masculin, etc. Dans le système esquimo, l'homme est agrégé à la famille de la femme. D'accord? Dans le système soudanais, la femme est agrégée à la famille de l'homme. Et donc, il y a une prévalence comme ça. Donc, quand nous avons constitué notre couple et que nous avons commencé, ben, du côté des parents de Jeanne, ils nous tiraient vers eux. Du côté de mes parents, ils nous tiraient vers eux. Et nous, on était là dans une forme d'écartèlement. Mais, nous ne pouvions lutter contre cet écartèlement qu'en nous saisissant l'un et l'autre dans les bras et en décidant qu'on allait pouvoir trouver un moyen sans violence, sans déchirure, sans rupture, on a fini par le faire. Je veux dire que c'est ce que disent mes enfants pour me consoler en disant, mais avec vos différences, que vous ayez tenu 54 ans, parce que nous avons vécu 54 ans jusqu'au décès de Jeanne, ensemble, mais c'est un exploit extraordinaire, effectivement, ça l'est. Mais en même temps, il est certain, et c'est très important de le comprendre, c'est que dans notre union, il y a eu un double exotisme. C'est-à-dire, Jeanne était très exotique pour moi, ce qui me permettait précisément de continuer ce travail d'où j'étais sorti de ma culture d'origine pour faire autre chose. Et quand je raconte, par exemple, tous les soucis que j'ai eus pour passer les concours, j'aurais pu faire passer les concours hospitaliers, je les ai passés très tard. Mais chez moi, il n'était pas question que c'était de la blague, tout ça, etc. etc. Il y avait, j'ai produit un saut cognitif et un saut épistémologique absolument phénoménal. Bon, moi j'étais... Bon, alors donc, ce saut, je complétais par le mariage exotique. Mais pour Jeanne, C'était très important aussi qu'elle eût, qu'elle rencontre quelqu'un de plus exotique encore qu'un goy français, vous voyez. Les amis de ses parents, à l'époque, se demandaient comment qu'elle avait, s'était débrouillée pour rencontrer un arabe. Bon, on est toujours là-dedans. Mmh. Bon. Mais en définitive, tout cela, bon, ça a peut-être, au lieu de nous séparer, ça a peut-être contribué à renforcer notre union et à renforcer le... Ben, voilà, vous... Elle a été de toute mon aventure de vie dans la mesure où elle m'a accompagné en tout. Je veux dire, à chaque fois que j'entreprenais une formation, elle la partageait avec moi. Et c'était, voilà, malheureusement, voilà, aujourd'hui où j'en suis.
Merci Aldo Naouri pour ces deux semaines de conversation si riche que je sens que les auditeurs ont envie de que je vous dise encore à la semaine prochaine, qu'ils se rassurent en quelque sorte qu'à votre voix, ils pourront la retrouver en se plongeant dans votre livre intitulé « Des bouts d'existence » paru aux éditions Odile Jacob. Ce livre est une véritable danse du présent qui donne la main au passé, le vôtre mais aussi le nôtre, comme si par enchantement, en ouvrant la porte de vos souvenirs, c'est un peu de la porte des nôtres que vous avez entrouvert, comme je le disais la semaine dernière. On ressent alors une forme de gratitude profonde pour nous permettre de ressentir en nous un monde plus vaste, plus beau et plus intense. Merci infiniment Aldo Naouri.
Merci beaucoup à vous, merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Pierre Monteil, à la réalisation, comme d'habitude, et toujours tout aussi printanière, Dany Journeau. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.